France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Il y a le bâillement qu'on tente d'étouffer en réunion, le deuxième café de l'après-midi pour le petit coup de fouet, la barre chocolatée un peu plus tard, le sucre ça aide à tenir, sans parler évidemment du snooze, vous savez, cette fonction répétition d'alarme sur votre réveil ou téléphone dont certains usent, pour ne pas dire abusent, quotidiennement. Autant de petites habitudes qui trahissent une même réalité, nous sommes collectivement fatigués. Si la moyenne est autour de 7 heures de sommeil par nuit environ, soit la durée recommandée, les Français dorment tout de même 1h30 en moins qu'il y a 50 ans. Une personne sur 5 se repose moins de 6 heures par nuit, et ne parlons même pas des adolescents. Oui, nos ados, qu'on est obligé de secouer le matin et qu'on ne voit pas émerger avant midi le week-end, ils sont 70% à être en manque de sommeil en réalité. En cause, les écrans ont sans doute un peu féroce concurrence au sommeil, tablettes, téléphones et autres ordinateurs dont la lumière bleutée agit sur nos organismes en empêchant la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et en repoussant ainsi le sentiment de fatigue. Et puis, qui n'a pas déjà cédé à l'épisode de plus d'une série en cours, la tentation du petit dernier, à laquelle on ne parvient pas à résister, quand bien même on sait qu'elle sera regrettée le lendemain. Mais notre charge de travail, nos sollicitations extérieures, le bruit, la lumière, le stress sont autant d'autres causes d'une fatigue chronique. Et non, faire la grasse matinée le week-end, si agréable que ce soit, ne permet pas d'effacer la dette de sommeil de la semaine. Alors, que faire? S'interdire les écrans le soir? Favoriser la sieste à l'école comme au travail? Ou revenir au coucher avec les poules de nos ancêtres? D'ailleurs, à ce sujet, saviez-vous que jusqu'au Moyen-Âge, le sommeil était biphasique? Une première partie de nuit, quelques heures de réveil pour s'occuper des animaux, des tâches domestiques, partager un moment en famille ou faire l'amour, avant de replonger dans les bras de Morphée cette fois. Mais bon, aujourd'hui alors, comment ça se passe la nuit pour vous? Venez nous dire quelle est l'organisation veille-sommeil dont vous rêvez. On vous accueille en pleine forme jusqu'à 20h. C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sophie. Bonsoir Sophie.
Bonsoir le téléphone sonne. Eh bien oui, alors vous posiez la question... Est-ce qu'on dort bien et pourquoi on dort pas bien? Parce qu'en fait, la réponse est non. Je suis fatiguée. Et je sais que, en tout cas, dans mon cas, c'est parce que les journées sont longues et quand on travaille 39 heures, 40 heures par semaine et qu'on veut avoir un minimum de vie sociale, qu'on veut faire du sport, qu'on veut voir la famille, qu'on veut avoir un minimum de loisirs, faut que tout rentre dans une journée. Donc, soit on se lève tôt, soit on se couche tard. Et moi, on me diminue mon temps de travail, je vous garantis que je dors plus. Et en fait, aujourd'hui, c'est un luxe, c'est un privilège, en fait, de pouvoir avoir ce temps avant et après le travail. Parce que, par exemple, rien qu'au niveau des trajets qui sont considérablement rallongés, c'est un luxe de pouvoir habiter près de son travail. Et c'est vrai que le sommeil, c'est un temps improductif. C'est un temps où on ne consomme pas, où on ne travaille pas. Et il y a quelque chose d'assez absurde, c'est que la science nous dit, on sait quel est le mal, on sait que c'est absurde et que c'est mauvais de ne pas dormir. On sait qu'on dort peu, on sait comment mieux dormir, mais en fait, les pouvoirs publics ne le soignent pas parce que c'est encore vu comme un coût et pas comme un investissement sur la santé mentale et physique. Et c'est dommage parce que ce temps improductif, il est quand même un peu nécessaire si on veut tenir un petit peu.
On peut vous demander combien d'heures de sommeil vous dormez par nuit en moyenne ?
Je dois être à 6 heures. En fait, je me couche pas si tard que ça. Autour de 23 heures, je dois m'endormir. Mais entre 5h30 et 6 heures, je suis une lève-tôt, quoi.
Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage, pour répondre à votre question et puis à toutes celles de nos auditeurs. Nous sommes en studio avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris, professeur de médecine à l'Université Paris-Cité. Et puis, nous sommes également en ligne avec Stéphanie Maza. Bonsoir.
Bonsoir Charlotte Piret.
Vous êtes enseignante-chercheuse de neuropsychologie à l'Université de Lyon et vice-présidente de l'Institut du sommeil et de la vigilance. Pierre-Alexis et Geoffroy, ce que nous disait Sophie, c'est effectivement une tendance générale, je le disais en introduction, on dort globalement pas assez en France aujourd'hui. Comment on explique cette tendance à la baisse ?
Alors, je crois qu'effectivement, dans votre introduction et puis avec le témoignage, il y a déjà énormément d'éléments qui ont été donnés, qui sont tout à fait justes. Je crois que le premier élément, déjà, c'est que notre auditrice parlait de luxe. On est vraiment sur la plus grande inégalité sociale, vraiment avec évidemment les gens les plus carencés, les plus pauvres, qui vivent aussi dans des conditions, dans des environnements difficiles, bruyants, exigus, et parfois nombreux dans des petits espaces. Eh bien, ça va tout de suite, directement, impacter leur sommeil, impacter leur santé mentale et leur santé physique. Et on sait aussi que, effectivement, les contraintes professionnelles, des fois les éloignements du milieu professionnel avec des trajets des fois compliqués, très longs, eh bien là aussi va forcer les personnes à diminuer leur temps de sommeil. Ce temps total de sommeil, c'est d'abord le premier indicateur, c'est vrai, est-ce que j'ai mon temps, mon besoin de sommeil.
Oui, parce qu'on a donné une moyenne qui est de 7 heures nécessaires en moyenne pour un adulte, malgré tout on est tous inégaux face au sommeil.
Chacun a sa durée, il y en a c'est 6 heures, d'autres c'est 9 heures, Einstein par exemple, et je le rappelle, c'était 12 heures, donc on peut aussi avoir des besoins élevés et pour autant avoir tout à fait des capacités tout à fait performantes, et d'ailleurs, on sera la meilleure version de soi-même en respectant son besoin à soi, sa durée de sommeil. Mais le deuxième élément, et le deuxième qui est même plus important que la durée en elle-même, c'est la régularité des rythmes. Et notamment le fait de se lever à heure fixe, y compris le week-end. On dit qu'il ne faut pas décaler
donc
plus de 1h30.
Donc on bannit la grasse matinée, oh là là, ça commence mal cette émission.
Alors bon, on pourra en reparler parce que c'est quand même important de récupérer, de ne pas être trop privé de sommeil parce que c'est un stress vraiment très important sur l'organisme. Mais la régularité des rythmes, là aussi, est très importante. Et malheureusement, chez les gens qui font face à des conditions de vie difficiles, eh bien, il y a des rythmes qui sont très irréguliers pour pouvoir subvenir aux différents besoins de la famille.
Stéphanie Mazza, ce que nous disait aussi Sophie, c'est que finalement, outre le temps de travail, bien sûr, mais aussi, il y a aussi les sollicitations extérieures, l'envie de loisir, etc., qui est totalement légitime. Et finalement, le sommeil, ça devient la variable d'ajustement, en fait, on pourrait le résumer ainsi.
C'est exactement ça, et je pense qu'on garde encore en tête l'idée que le sommeil, c'est une période d'inutilité.
D'improductivité, c'est ce que nous disait également Sophie, oui.
Exactement, comme si quelque part ça ne servait à rien ce temps de repos, et en fait on sait à l'heure actuelle que c'est tout l'opposé, et que le sommeil c'est véritablement le socle de notre santé mentale et de notre santé physique, et il se passe énormément de choses pendant ce temps de sommeil, donc c'est pas du tout une période qui est à supprimer, au contraire c'est une période à protéger pour pouvoir être le plus productif, le plus performant et en meilleure santé possible.
Marc nous appelle au standard, bonsoir Marc.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi, c'est juste une petite remarque d'un vieux monsieur qui veut quelquefois regarder des émissions, par exemple scientifiques, avec un débat derrière. J'ai remarqué que depuis 10 ans, il y a une évolution de une demi-heure à trois quarts d'heure de départ de l'émission. Avant, ça partait à 8h30, 8h35. Maintenant, à 9h, 9h05, 9h10 commence l'émission. Et après, il y a le débat. Ou l'épisode d'un film, d'une série, et après le deuxième épisode. Ce qui fait qu'on se retrouve à des 11h30 minuit si on veut aller jusqu'au bout. Mmh. Et même moi qui suis retraité, donc pas travailleur, je ne peux pas arriver à suivre ce rythme. Donc je zappe un certain nombre de choses, et sachant que je continue à me lever à 7h, 7h30 le matin, parce que j'ai besoin d'un rythme régulier, c'est le matin que, de toute façon qu'on fait le boulot.
Merci beaucoup Marc pour ce témoignage, ça nous permet d'entrer directement dans la question des écrans parce qu'effectivement elle est fondamentale quand on parle de sommeil. Nous avons également Frédéric, qui nous écrit via WhatsApp et qui suggère également d'avancer l'heure des programmes TV un peu comme vous le dites, et qui cite le fait qu'en Allemagne par exemple le prime time commence à 19h15 alors qu'en France c'est 21h10 comme vous nous disiez Marc. Et puis moi j'ai noté, alors d'ailleurs je remercie notre stagiaire Simon parce que c'est lui qui me l'a relevé, mais que le fondateur de Netflix, Reed Hastings, avait déclaré, donc au moment où il fonde Netflix, notre principal concurrent, c'est le sommeil. Finalement, dans cette phrase, je trouve que tout est un peu dit, Pierre-Alexis Geoffroy. Il y a cette problématique de la concurrence des écrans, clairement.
Alors oui, clairement, et puis effectivement, comme on le disait, le soir on a envie un peu de couper avec la journée, de pouvoir se relaxer, d'être autre chose que ce qu'on est au travail. Et finalement, le témoignage là que je viens d'entendre, moi je me suis fait en tant que somnologue la même réflexion. Avant, effectivement, on avait le journal de 20h globalement qu'on regardait un peu tous religieusement. Et puis vers 20h30, 20h45 commençait le premier film. Et puis pour les couches tard, il y avait le deuxième film qui commençait un petit peu plus tard, mais c'était un peu exceptionnel, c'était le vendredi soir ou c'était le samedi, etc. Et c'est vrai que ces horaires ont d'abord reculé, puis sont intercoupés un peu plus de publicité par rapport à avant, ce qui fait que la fin du film intervient beaucoup plus tard, ce qui est selon moi un vrai problème, c'est-à-dire qu'effectivement, on va se coucher plus tard, on va être maintenu éveillé. En fait, plus que les écrans, c'est ce qu'on va faire derrière son écran. Et le problème est vraiment là. Quel est l'usage de l'écran? Et vous avez cité Netflix. Netflix, il y a cette espèce de... finalement, on
pousse... D'appel à toujours plus.
D'appel à la consommation.
Sûr.
Exactement. Toujours plus. Et d'ailleurs, il y a quelques secondes pour pouvoir réagir, pour pas que l'épisode suivant n'apparaisse. Et on peut rentrer dans des tunnels comme ça, où on va regarder 3, 4, 5, on va consommer finalement 3, 4, 5 épisodes en étant happé complètement par le contenu. Mais ça peut être aussi les réseaux sociaux, ça peut être plein de choses. Et finalement, parce que, et ça c'est important peut-être de le dire rapidement, plus on est fatigué, plus on va avoir ce qu'on appelle une fatigue cognitive. Et quand on a cette fatigue cognitive, on a du mal à inhiber ses comportements, on a du mal à se raisonner, à se dire « bon, bah là, il commence à être un peu tard, il va falloir que j'aille fatiguer, il va falloir que j'aille dormir parce que je suis fatigué ». Et donc, on va consommer un peu comme ça, un peu en mode zombie, finalement, des choses qui sont poussées de manière complètement passive. Donc, attention à ça. Et peut-être qu'une bonne solution, c'est de se mettre une alarme gentille, hein, pas trop stimulante, etc. Et pour dire « attention, bah, c'est peut-être le moment d'aller se préparer au coucher ».
Stéphanie Mazza, vous avez notamment travaillé sur les rythmes des adolescents avec cette problématique évidemment des écrans qui est peut-être encore plus prégnante parce que le téléphone, une forme d'addiction aux réseaux sociaux, etc., elle se vérifie également chez les adolescents avec tous les dangers en termes de sommeil.
Tout à fait. Donc, il y a plusieurs études qui montrent qu'effectivement, la lumière bleue des écrans, mais aussi tout le contenu qui est très stimulant des écrans, peut avoir un impact sur le sommeil. Mais au final, la dette de sommeil des adolescents, elle provient de tout autre chose que les écrans, même si les écrans y contribuent. Les adolescents ont une particularité qui est portée par cette charge hormonale de l'adolescence que l'on appelle le décalage de phase. C'est-à-dire que temporairement, pendant l'adolescence, le sommeil va changer, il va se décaler dans le temps, c'est-à-dire que l'adolescent va devenir couche-tard, lève-tard, pendant cette période d'adolescence.
Avec plus de besoins en termes de durée de sommeil également, non ?
Oui, l'adolescent a besoin environ de 8 à 10 heures de sommeil par 24 heures. Mais comme ce sommeil se fait plus tardif, bah logiquement, le lever se fait lui aussi plus tardif. Et en fait, cette dette de sommeil chronique que va subir l'adolescent provient principalement du fait qu'il se lève tôt le matin parce qu'on a des horaires de prise de cours qui sont non physiologiques pendant cette période-là de l'année. Donc ça ne veut pas dire que les écrans n'ont pas d'impact, hein, bien entendu, mais en fait l'adolescent ne va pas ressentir la même pression de sommeil à cause de cette particularité que l'on appelle le décalage de phase.
Ce qui veut dire qu'il faudrait pouvoir, dans un monde idéal, adapter les horaires de collège et lycée notamment et décaler un peu pour être plus en phase avec la physiologie de nos adolescents.
Complètement. Il y a plusieurs études internationales qui ont été faites. On en a fait une très récemment en France qui montre que quand on décale d'une heure la prise de collège ou de lycée, donc c'est-à-dire commencer à 9h et non pas à 8h, on a un gain de sommeil significatif chez les adolescents. Et ce décalage d'horaire de prise de cours n'est pas associé avec un coucher plus tardif. Très souvent, on pense que parce qu'on leur permet d'arriver plus tard, ils vont aller se coucher plus tard. Et en fait, toutes les études montrent le contraire. Ils se couchent tard parce qu'ils sont dans cette période pubertaire. Mais par contre, le fait de pouvoir dormir un petit peu plus longtemps le matin leur permet de récupérer en termes de sommeil et ça a un impact également sur leur niveau d'anxiété et sur leur fatigue journalière. Et ça va réduire aussi ce qu'on appelle ce jet lag social, c'est-à-dire cette différence entre les jours d'école et les jours de week-end. Pierre-Alexis vous l'a dit, hein, plus il y a d'irrégularité dans les rythmes, plus on va subir cette dette de sommeil.
On parle d'adolescents, mais Célia, via WhatsApp, nous parle, elle, des femmes. Y a-t-il des études faites exclusivement sur les femmes et la durée de sommeil est-elle la même, Pierre-Alexis Geoffroy ?
Alors, on manque très clairement de données. Chez les femmes, il faut beaucoup plus d'études parce que d'abord, les femmes sont deux fois plus à risque de troubles d'insomnie, qui est la pathologie la plus fréquente. On a 30% à peu près de la population française qui souffre d'insomnie.
Ça s'explique, ça ?
Ça s'explique. Alors, il y a différentes choses. Effectivement, il y a un ensemble de choses liées aux hormones, aux différents cycles menstruels. La grossesse aussi est un facteur de risque qui va, chez certaines femmes, être associé en post-partum, on appelle ça, eh bien, à des troubles insomnie plus fréquents. La ménopause est aussi une période de tremblement de terre plus fréquente. Il y a d'autres causes un peu plus physiologiques. L'horloge, donc c'est l'horloge interne, est légèrement plus courte chez la femme que chez l'homme, ce qui là aussi entraîne un facteur de risque. Et puis, il y a aussi tout un tas de choses qui sont plus de l'ordre de l'organisation sociale. Et par exemple, on avait réalisé une étude récente qui montrait que lorsque l'on se marie, eh bien, le mariage devient un facteur de risque de mauvais sommeil pour la femme et ça devient un facteur protecteur chez l'homme.
Il y a aussi le fait que les femmes se lèvent plus globalement pour les réveils d'enfants, ont une charge mentale qui les tient éveillées plus souvent. Il y a aussi ces facteurs extérieurs dont vous parlez.
Voilà, peut-être la charge mentale, il y a plein de choses comme ça, etc. Nous, notre étude, elle ne montrait pas ça, mais quand même, il y a quelque chose, il y a un signal, il y a plein de facteurs à associer. Il faut faire des études pour vraiment montrer pourquoi, quels sont les facteurs, quels sont les leviers d'action finalement pour que les femmes souffrent moins de ces problèmes de sommeil.
Nous accueillons Antoine qui nous appelle de la Drôme. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Moi, je voulais parler de la sieste sur mon lieu de travail. En fait, avant, je n'avais pas l'occasion de faire la sieste sur mon travail. Et depuis un an, j'ai la possibilité de le faire. Et ça m'a vraiment changé la vie, professionnellement parlant, parce qu'avant ça, tous les après-midi, j'avais une demi-heure, une heure de gros bâillements, de fatigue, de difficulté à me concentrer. Et depuis que je fais la sieste, j'ai plus du tout de problème du tout. C'est beaucoup plus facile. Et ma collègue qui partage mon bureau a remarqué aussi que je baillais moins qu'avant.
Et vous avez un espace dédié à ça ? Comment ça se passe ? C'est admis déjà sur votre lieu de travail ?
Alors oui, c'est admis. En fait, j'ai la chance de travailler en médiathèque. Donc il y a des fat boys, des poufs pour accueillir les lecteurs. Et du coup, sur le temps de midi, c'est moi qui en profite.
Pas mal, et c'est confortable, pouf.
C'est très confortable, oui, je conseille.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Antoine. Stéphanie Maza, effectivement, la sieste au travail, ça fait partie des suggestions, des dernières recommandations du ministère de la Santé sur, en faveur d'une amélioration du sommeil des Français. Est-ce qu'elle est favorable, cette sieste, et est-ce qu'il faudrait la développer à la fois sur les lieux de travail, il est question également de le faire un peu mieux dans les écoles aussi?
Oui, tout à fait. La sieste, c'est vraiment un outil qui est très utile pour justement essayer de compenser cette dette de sommeil. Alors, attention, hein, la sieste ne viendra jamais parfaire complètement un manque de sommeil. Le sommeil de nuit, c'est quelque chose qui est absolument crucial. Mais effectivement, la sieste, quand elle est bien calibrée, à la fois en termes de durée et en termes d'horaire, c'est vraiment un outil qui est très efficace. Et la sieste, en fait, ça s'apprend. On a pas mal de personnes qui vont nous dire « mais moi, je suis pas capable de faire la sieste ». Mais il faut savoir qu'on peut s'entraîner à faire la sieste. On peut apprendre à mieux s'endormir, puisque au final, un bon siesteur, c'est quelqu'un qui arrive à s'endormir vite et donc à récupérer sur une période de temps qui est très courte.
C'est quoi d'ailleurs la durée idéale de la sieste ? C'est autour de 20 minutes ?
Alors ça dépend, il y a différents types de siestes. On a des siestes qu'on appelle les siestes flash qui vont durer moins de 5 minutes. Donc c'est vraiment des siestes express qui vont nous permettre de regagner en concentration et en vigilance. Après on a la sieste courte, celle dont vous parlez, qui généralement est inférieure à 30 minutes puisqu'on compte quand même un temps d'endormissement dans ces 30 minutes. 30 minutes pour permettre de se reposer mais pas de passer dans un sommeil profond puisque sinon on va avoir ce qu'on appelle une inertie au sommeil puis on va avoir du mal à sortir de cette léthargie de sieste. Mm-hmm. Et enfin on a la sieste qu'on appelle la sieste royale, qui elle fait un cycle complet de sommeil qui dure une heure et demie. Et celle-ci, on a plutôt tendance à la proposer à des personnes qui sont en horaire décalé et qui auraient besoin d'avoir un cycle complet pour réussir à atteindre quelque part leurs besoins de sommeil. Et c'est pour ça que quand on parle de sommeil, on parle de durée de sommeil sur 24 heures, puisqu'on va calculer ce temps de sieste.
Mmh. Il y a également la sieste caféinée, j'ai découvert ça, on peut aussi l'appeler napspresso, la contraction de nap et expresso, c'est-à-dire on boit un petit café juste avant et on a les effets bénéfique quand on se réveille, c'est bien ça ?
On a des doubles effets, c'est-à-dire que comme l'effet de la caféine va prendre une vingtaine de minutes, on va cumuler l'effet de cette petite période de sommeil, plus l'effet de la caféine, qui est un effet éveillant, donc on va cumuler les deux effets.
Pierre-Alexis Geoffroy, vous avez également quelque chose à ce sujet ?
Oui, juste pour bien comprendre en fait ces différences entre sieste courte flash et sieste royale finalement. En gros, après 30 minutes, on rentre dans un stade de sommeil qu'on appelle le stade de sommeil profond. Et se réveiller après un stade de sommeil profond, on a un peu cette ivresse, quoi.
Un peu vaseux, comme ça,
désagréable. On n'est pas bien, on sent qu'on a dormi, etc. Alors, du coup, si on veut juste récupérer en concentration, en attention, les siestes courtes, elles nous permettent de récupérer en concentration, en attention. Et il faut plutôt éviter d'aller sur ce type de sieste-là. Si, à l'inverse, on est effectivement, comme le disait très bien Stéphanie, sur un travail de nuit, un travail posté, qu'on est en privation chronique de sommeil, là, pour que notre corps récupère, se régénère, il va falloir rentrer dans ces stades de sommeil profond. Parce que c'est vraiment au cours de ce stade de sommeil profond que finalement tous les processus vitaux, les fonctions de l'ensemble de nos organes vont se régénérer. Et donc c'est là où ça peut être important pour ceux qui sont en privation ou pour d'autres, et il y en a comme peut-être celui qui est l'homme qui est intervenu juste avant et qui fait la sieste tous les jours à la médiathèque, et bien à ce moment-là, il peut faire peut-être un cycle de sommeil en jour et un autre cycle de sommeil, ou plusieurs cycles, la nuit. Voilà. Et on a ce qu'on appelle un sommeil biphasique, un peu de sommeil le jour, un peu de sommeil la nuit.
Malgré tout, la sieste, ça, c'est un palliatif presque artificiel, j'allais dire, ça ne compense pas une vraie dette de sommeil.
Alors,
la nuit.
Ça dépend. C'est-à-dire que finalement, pendant très longtemps, effectivement, les médecins du sommeil disaient « Attention, quand on a des problèmes de sommeil la nuit, pas de sieste, parce qu'il faut justement utiliser la pression de sommeil pour bien dormir la nuit. Et si on fait la sieste en journée, eh bien, on va avoir un mauvais sommeil de nuit. » Ce qu'on montre, c'est que quand même, globalement, les études scientifiques sont très claires dessus, notamment sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de la mortalité et sur le plan de la santé mentale. Les gens qui sont en privation chronique et sévère de sommeil, ça a un tel impact pour la santé que quand même les faire dormir et leur faire faire des siestes de temps en temps, et notamment le week-end, c'est un moindre mal. Et puis, il y a des gens, il y a certaines cultures, vous avez parlé à une certaine époque au Moyen-Âge du sommeil biphasique, mais les moines, par exemple, certains vont se lever en pleine nuit pour faire la prière, puis vont se rendormir, et ils ont ce qu'on appelle un sommeil biphasique. C'est une organisation, mais il faut le faire tous les jours, par contre. Dans d'autres civilisations, c'est au début de l'après-midi, d'ailleurs. Au début de l'après-midi, on a un creux circadien. C'est une proportion un peu plus facile, finalement, à s'endormir.
Et le petit coup de barre d'après pause-déjeuner, je pense qu'on l'identifie tous. Ouais.
Voilà. Et donc, certains, tous les après-midi, parfois dans des pays où il fait chaud, où justement c'est un peu difficile de travailler avec ces températures-là, et donc ils font un cycle de sommeil l'après-midi, mais du coup, ils en font un de moins la nuit.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et au téléphone sonne ce soir, on parle sommeil, ou plutôt manque de sommeil. Sommes-nous tous fatigués? Nous sommes avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy, qui est psychiatre et médecin du sommeil, avec Stéphanie Mazat, enseignante-chercheuse et vice-présidente de l'Institut du sommeil et de la vigilance. Pierre-Alexis Geoffroy, vous commenciez à l'aborder un peu la question de ce que cause en fait le manque de sommeil en termes de troubles. Patrice, via WhatsApp, nous écrit « La prise continue de somnifères peut-elle avoir des conséquences néfastes à long terme sur le cerveau ou autre ?» La France qui est toujours championne en termes de consommation de somnifères, qu'est-ce que vous lui répondez?
Alors, je vais peut-être surprendre, mais il ne faut pas non plus diaboliser ces traitements-là. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on en consomme trop, c'est vrai que ce n'est pas le premier traitement de l'insomnie. Le premier traitement de l'insomnie, c'est important de le rappeler, c'est la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie. Globalement, c'est une psychothérapie en 4 séances qui peut être faite de groupe en individuel. Et les psychologues, il y en a plein qui sont formés et qui peuvent proposer ces traitements-là. Et il y a plein aussi de centres du sommeil qui proposent des groupes de thérapie cognitivo-comportementale. Donc c'est tout à fait important de le rappeler. C'est important d'en parler à son médecin et c'est important d'être accompagné, d'avoir des outils pour lutter contre son sommeil. Une fois qu'on a dit tout ça, il est vrai que l'usage des hypnotiques, en particulier des benzodiazépines et apparentés, en fait, vont provoquer un sommeil un petit peu artificiel. Et ce sommeil, dans son architecture, dans sa qualité, est moins bon et moins profond qu'un sommeil sans hypnotique. Et donc, c'est un problème. Et on sait que ces benzodiazépines, alors pendant très longtemps, on a dit « Oh là là, attention, ça va donner des maladies neurodégénératives, etc. »
Et un risque de dépendance également.
Alors, vous avez raison. Les maladies neurodégénératives, on sait que c'est faux. C'est-à-dire, en fait, malheureusement, avant de développer un Alzheimer, un Parkinson, une démence frontotemporale, des choses comme ça, et bien en fait, la perte de neurones fait qu'on est un peu plus anxieux et on va un peu moins dormir. En fait, c'est un des signes annonciateurs de la maladie. Donc, c'est un peu plus une conséquence de la maladie. Donc, bah oui, il faut traiter ces problèmes de sommeil. Donc, ça, on y est un peu revenu. Par contre, effectivement, il y a un vrai problème avant de tolérance, parce que la dépendance, c'est vraiment une perte de liberté et on continue à consommer la substance ou à faire un comportement malgré les conséquences socio-professionnelles, avec des conséquences médico-légales, etc. Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on a, c'est une tolérance, c'est-à-dire qu'on prenait avant un comprimé pour s'endormir, ce comprimé ne fait plus effet, et pour retrouver l'effet pour s'endormir, on va en prendre un deuxième. Et puis ce qu'on montre, et en fait c'est assez rapide, c'est pour ça qu'on ne dit pas plus de 1 mois ces médicaments, parce qu'à partir d'un mois, on le voit très bien dans les études, l'effet, par exemple, sur la latence d'endormissement, donc sur l'endormissement, très concrètement, eh bien, commence à disparaître. Et donc, les personnes vont prendre un comprimé de plus pour le retrouver, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a des patients, des fois, qui ont 10, 20 comprimés, parce qu'ils ont été obligés d'en rajouter un et un et un.
Stéphanie Mazat, effectivement, le manque de sommeil, c'est pas juste le sentiment de fatigue désagréable, ça suscite d'autres choses, et ça peut commencer dès l'enfance, ça fait partie des choses que vous avez étudiées ?
Oui, exactement. On sait que le manque de sommeil peut commencer très tôt, et notamment chez l'enfant, et qu'on va avoir des répercussions de ce manque de sommeil à la fois sur la santé physique et sur la santé mentale. Donc les répercussions qu'on va avoir, elles sont assez identiques hein, chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. On va avoir un impact notamment sur notre système immunitaire, on va avoir une augmentation du risque cardio-métabolique, on va avoir également une augmentation de la prise de poids, de l'obésité, une augmentation du risque de diabète. Et on va avoir également une répercussion sur le comportement, sur ce qu'on appelle la cognition, avec chez l'enfant souvent des difficultés d'apprentissage, des difficultés de concentration et parfois des troubles du comportement qui ressemblent, on va dire, à de l'hyperactivité. Et on a montré que parfois on avait des enfants qui étaient diagnostiqués comme ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et qui en fait étaient des enfants qui souffraient d'un syndrome d'apnée du sommeil. Et le fait de traiter ce syndrome d'apnée du sommeil venait résorber les troubles du comportement de l'enfant. Donc c'est vraiment important dès le plus jeune âge de pouvoir se soucier de la qualité du sommeil, et vous l'avez vu hein, dans les recommandations, c'est de pouvoir le plus rapidement possible parler de son sommeil et du sommeil de ses enfants avec le médecin pédiatre pour justement surveiller quelque part l'évolution de ce sommeil.
Moi je dis à mes enfants que c'est important de dormir parce que ça les aide à grandir et à mieux apprendre. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas du tout?
Vous avez tout à fait raison. Concrètement, effectivement, on parle de la libération de l'hormone de croissance pendant le sommeil, mais c'est pas que ça, on a toute le phénomène de maturation cérébrale qui se fait de manière spécifique pendant le sommeil lent profond, dont Pierre-Alexis a parlé juste avant. Donc effectivement, ça nous fait grandir à la fois physiquement, mais aussi d'un point de vue cérébral. Le sommeil nous aide à grandir.
Ce qui veut dire qu'il faut aussi valoriser finalement en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que société, c'est important pour dès l'enfance de valoriser justement le sommeil. On revient un peu à ce que disait Sophie au départ de ce temps qu'on pense inutile, mais finalement c'est un apprentissage que de savoir bien dormir.
C'est exactement ça. Nous, on a tendance à dire bien dormir, ça s'apprend. C'est-à-dire que vous avez vu que maintenant, on a beaucoup de campagnes publicitaires sur le bien manger, sur le bien bouger. Ben, on espère pouvoir avoir la même chose sur le bien dormir, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas connu, et il faut en parler, il faut donner des jalons, il faut donner des conseils pour que chacun puisse apprendre à bien dormir. Nous, on a développé un programme d'éducation au sommeil avec l'Éducation nationale, et c'est 8 séances que les enseignants peuvent faire avec les élèves pour leur expliquer à quoi ça sert de dormir, et on a montré que ces 8 séances étaient suffisantes pour améliorer le sommeil de ces enfants sans jamais avoir directement parlé aux parents. Donc à partir du moment où même enfant, on comprend pourquoi c'est important de dormir, on change son comportement.
Pierre-Alexis Geoffroy, je vous vois acquiescer effectivement à ce sujet.
Oui, absolument, et même ça s'éduque, on informe dès le plus jeune âge, mais aussi ça se respecte. Et c'est toute une vision, en fait, une culture à avoir autour du sommeil. Il y a une très très belle étude qui vient de sortir dans PNAS, un des meilleurs journaux de neurosciences, où finalement on a regardé dans le monde, dans 20 pays dans le monde, la durée de sommeil et l'impact sur la santé mentale et physique. L'hypothèse des auteurs, c'était de se dire, bah, les pays qui dorment le moins, qui sont le plus en privation de sommeil, vont avoir la plus mauvaise santé. Mmh. Eh bien, les auteurs ont été très surpris de voir que finalement, évidemment, quand on prive son sommeil, ça corrèle avec de la mauvaise santé, mais que finalement, le facteur de stress et le facteur prédictif le plus de mauvaise santé, c'était quand il y avait une différence avec les représentations culturelles. Et notamment, et on le comprend très bien, par exemple un adolescent, on prenait cet exemple tout à l'heure, qui a un retard de phase, qui se couche tard le soir, et qui le matin va être en difficulté pour aller à l'école, il va être somnolent à l'école. Et bien le fait d'être somnolent sur sa table, et de ne pas être éveillé alors qu'il devrait l'être, donc par rapport aux normes culturelles, vous voyez, eh bien, il va être l'objet de réprimandes, de brimades, de blagues de ses collègues, peut-être même du prof, qui ne va pas être content parce qu'il est en train de dormir sur sa table. Et ce stress-là, qui est généré, est un stress qui est plus important sur la santé que le stress physiologique d'avoir écourté son sommeil. Donc, il y a toute une représentation de notre société à avoir sur le fait de préserver, de respecter le besoin de sommeil de chacun. Et du coup, de donner une certaine forme aussi de liberté aux gens, d'organiser leur temps de travail en fonction aussi de leurs besoins de sommeil pour être effectivement plus performant, parce qu'au travail, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut un collaborateur performant. Et puis, si on parle, si on s'intéresse à la santé de la population, eh bien, qu'ils soient en bonne santé. Et si on s'intéresse à l'économie, bah, c'est pareil, on fera des économies si les gens sont en bonne santé et travaillent bien.
Pauline nous attend au standard. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Je crois que vous aviez également une question sur la question sur le sujet du sommeil des enfants.
Alors c'est plutôt une remarque, puisque je sais qu'il y a un projet d'interdire les temps de sieste à l'école pour les enfants à partir de la moyenne section, donc des enfants de 4 ans. qui ont déjà des journées très longues où on leur demande beaucoup de concentration, de calme, de se contenir. Ça reste quand même des enfants de 4 ans. Et ce projet, moi, je trouve qu'il est effarant, parce que c'est un temps dont les enfants ont vraiment besoin pour se reposer et être justement disponibles pour des apprentissages qui vont les aider à grandir, à évoluer, etc.
Merci beaucoup Pauline pour votre remarque. Stéphanie Mazza, sur cette question de la sieste à l'école notamment, c'est alors il me semblait que les dernières recommandations étaient plutôt en faveur de la sieste, mais je vous laisse répondre à Pauline.
Oui, pour rassurer Pauline, en tout cas qu'elle sache que nous ferons tout pour qu'il n'y ait jamais un tel projet qui soit mis en œuvre, et qu'effectivement les projets semblent aller dans l'autre sens, c'est-à-dire d'essayer de promouvoir au maximum ce temps de sieste, puisqu'en fait ce temps de sieste en maternelle, c'est encore un besoin physiologique. Cette dernière sieste, avant qu'on ait un sommeil exclusivement nocturne, elle va cesser entre l'âge de 3 et 6 ans, mais on ne sait pas exactement à quel âge.
Et puis ça dépend d'un enfant à l'autre, non ?
Et exactement, vous avez des enfants qui, en petite section de maternelle, n'ont déjà plus besoin de faire la sieste, donc à eux, ça ne sert à rien de leur proposer ce temps de sieste, parce que ça risque de grignoter sur leur sommeil de nuit, comme l'a expliqué Pierre-Alexis. Mm-hmm. Mais inversement, on a des enfants en moyenne section qui ont encore besoin de faire la sieste et qui en auront encore besoin toute l'année, et on a quelques cas un peu plus rares, en grande section, qui ont encore besoin de ce temps de repos. Donc nous, on est plutôt à travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de créer un cadrage national pour permettre justement cette meilleure compréhension des rythmes. Après, il y a aussi une réalité, c'est que depuis que l'instruction est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, ces enfants, ils sont sur le temps d'après-midi à l'école, et donc il faut trouver la place, il faut retrouver les ressources pour leur permettre de faire la sieste, donc ça va demander quelques, on va dire, ajustements, mais on y travaille. Donc pour rassurer Pauline, on est vraiment plutôt dans une manœuvre inverse.
Jean-David nous appelle de Paris. Bonsoir Jean-David.
Bonsoir et merci beaucoup de prendre ma question. En fait, je me faisais la réflexion que souvent on dit que le sommeil avant minuit est plus réparateur, c'est une espèce de lieu commun. Moi, j'ai eu le sentiment de l'expérimenter à titre personnel. Je voudrais savoir si voilà, ça a été avéré scientifiquement ou non. Et peut-être une petite question complémentaire sur les cauchemars. Est-ce que on a le sentiment là aussi de manière empirique que les cauchemars rendent le sommeil beaucoup moins? Est-ce que c'est simplement un inconfort au réveil ou est-ce que c'est avéré aussi?
Merci beaucoup pour votre question Jean-David. Pierre-Alexis Geoffroy, effectivement le rythme moyen c'est à peu près 23h-7h en France. Est-ce que les heures avant minuit, c'est vrai que c'est un adage qu'on entend souvent, que sont compte double ou compte plus en tout cas?
Alors ça c'est vraiment un adage, c'est pas démontré. Ce qui est démontré, en tout cas, c'est le sommeil nocturne, effectivement, est plus récupérateur. On est une espèce d'activité diurne et de repos nocturne. Donc, globalement, respecter ces rythmes-là fait que le sommeil sera plus réparateur et avec notamment ce sommeil lent profond qui sera plus long et de meilleure qualité. Le sommeil diurne, et ça, il y a plein d'études, notamment chez les travailleurs de nuit ou chez les travailleurs postés, en fait, est souvent plus superficiel, plus fragmenté, c'est-à-dire avec pas mal de réveils et qui sera un peu moins récupérateur. Donc ça, c'est assez clair. Maintenant, chacun a son horloge. Il y a les couches tôt, il y a les...
Les oiseaux de nuit, comme on dit
voilà,
souvent.
Les hiboux et les alouettes. Enfin, voilà, il y a différentes expressions. Mais effectivement, ce qui compte, c'est vraiment de respecter son rythme. Et pour repérer et connaître un peu naturellement ces cycles veille-sommeil, on dit qu'après 15 jours de vacances, sans contraintes socio-professionnelles, sans enfants en bas âge aussi qui vous réveillent, et voilà, et bien là, on connaît à peu près à la fois son horaire de coucher et de lever idéal, on va dire, et sa durée idéale aussi.
Jean-David nous questionnait également sur la question sur le sujet des cauchemars, effectivement. Est-ce qu'un cauchemar, ça abîme la qualité du sommeil?
Alors, non, c'est tout l'inverse, et ça, on a fait pas mal d'études dans notre centre aussi sur les cauchemars. On adore ça parce que c'est tout à fait les rêves, les cauchemars, c'est tout à fait passionnant. Les cauchemars, heureusement qu'on en fait. On a besoin de faire des cauchemars. Ces cauchemars nous permettent de réguler nos émotions, de diminuer notre stress. C'est comme ça aussi qu'on va faire des scénarios, des fois des scénarios qui sont désagréables. On va se revoir en train de se disputer avec un tel ou un tel. Et ça va nous permettre d'abord de simuler des situations et des réponses qu'on pourrait faire dans le futur. Et puis paf, on va diminuer le stress, on va se sentir mieux. Exception à part de certaines maladies qu'on a en psychiatrie, les troubles de stress post-traumatique ou la maladie des cauchemars, on peut avoir ça. Hein. Et là, c'est quand les cauchemars vont se répéter et vont être responsables d'une détresse en journée, d'une répercussion sur le quotidien de la personne. Quand le jour, parce qu'en fait, et c'est vrai pour toutes les maladies du sommeil, en fait, la maladie du sommeil devient un problème lorsque ça répercute sur le jour et sur l'activité diurne. Sinon, on n'a pas de maladie. Eh bien là, pour les cauchemars, quand on a un retentissement sur ses activités, une détresse, une fatigue ou une somnolence, c'est-à-dire on s'endort alors qu'on ne souhaiterait pas s'endormir, il faut aller consulter.
Là, dans ce cas-là, ça nécessite effectivement une consultation, puisqu'on en est toujours sur les vraies problématiques. L'apnée du sommeil, on se rend compte comment et dans quel cas est-ce qu'il est intéressant de consulter ?
Alors, l'apnée du sommeil, c'est très largement sous-diagnostiqué. Globalement, il y a des signes, là aussi nocturnes ou diurnes. Les signes nocturnes, c'est l'étouffement. Ou l'impression de pause respiratoire. C'est souvent le conjoint en fait, qui va se rendre compte qu'il y a des moments où tu t'arrêtes de respirer et tu reprends ta respiration bruyamment. Le fait d'aller suer abondamment la nuit et le fait d'aller uriner aussi fréquemment la nuit, ça c'est des signes qui doivent faire penser aux apnées. Et puis les signes en journée, c'est le fait d'avoir très mal à la tête. Souvent c'est des mal de tête en barre et les gens vous disent « plus je dors, plus j'ai mal à la tête ». C'est aussi des patients qui parfois vont avoir un tour de cou un peu plus fort. L'obésité est aussi associée aux apnées. Et on appelle ça le rétrognathisme. C'est les gens qui ont un menton un peu court, un peu enfoncé. C'est des facteurs de risque. Tout n'est pas spécifique, hein, mais voilà. Et l'autre grand facteur, c'est ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive. C'est le fait de s'endormir dans des situations où on ne souhaiterait pas s'endormir. Si vous êtes somnolent en journée, eh bien d'abord, il faut aller voir absolument votre médecin généraliste au moins ou un médecin du sommeil. Et cette somnolence, on sait qu'elle est responsable d'accidents, en particulier d'accidents de la route, mais aussi d'accidents au travail et d'une moins bonne qualité de vie et de santé.
Jean-Claude nous écrit via WhatsApp « Pourquoi ne fait-on rien contre les motos en échappement libre ? Plus généralement, les nuisances sonores nuisent au sommeil. » Stéphanie Mazin, on le disait, effectivement, bien dormir, c'est aussi dormir dans un environnement propice.
Vous avez vu dans les recommandations, il y a vraiment tout un axe sur justement la limitation des nuisances sonores, parce qu'effectivement, cette inégalité au bien dormir, elle provient aussi de ça, c'est-à-dire la qualité de l'habitat, la qualité de la chambre, et en fait, tout ce qui va stimuler les centres de l'éveil, et le bruit, c'est quelque chose qui va interrompre fréquemment le sommeil, c'est quelque chose que l'on connaît comme un facteur de risque d'un mauvais sommeil. Donc tout à fait, tout ce qui va être en lien avec les nuisances sonores sont à prendre en considération.
Avec d'autres types de nuisances également, lumineuses, un environnement de chambre, etc. Il y a quand même des facteurs qui permettent de mieux dormir.
Tout à fait, on a la pollution lumineuse, vous avez tout à fait raison. On a aussi le changement climatique en termes de réchauffement climatique. On sait que l'augmentation de la température va très certainement altérer la qualité de notre sommeil dans les 50 prochaines années. Et aussi au niveau de l'environnement de la chambre, si on revient un peu sur les chambres notamment des enfants, le fait d'être à plusieurs dans une même chambre peut induire des difficultés nocturnes, surtout quand on a des enfants qui ont des rythmes différents. C'est-à-dire que si vous avez un enfant de 8 ans et son frère adolescent qui dorment dans la même chambre, ben, les rythmes différents vont faire que le sommeil ait une moins bonne qualité. Donc, bien entendu, on n'a pas tous la même chance d'avoir des logements qui nous permettent de dormir dans des chambres individuelles. Et donc, il va falloir essayer d'agir pour amoindrir cet impact sur le sommeil de chacun.
Pierre-Alexis Geoffroy, mal dormir, ça veut dire des troubles en termes de santé physique, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, on l'a un peu dit, en termes de santé mentale aussi, parce que on l'a étudié dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on souffre de problèmes psychiques, ça a un impact sur notre sommeil, mais mal dormir peut aussi susciter des troubles psychiques.
Ah oui, vous avez raison, c'est très important de le souligner, ça va dans les deux sens. On a dans l'idée qu'en fait, on dort mal parce qu'on est anxieux, parce qu'on est déprimé, mais ça peut être tout à fait dans l'autre sens. Ça peut être parce qu'on dort mal plusieurs jours de suite, qu'on va être en privation de sommeil, qu'on va avoir des symptômes anxieux, des attaques de panique, de la dépression, avec des difficultés qui vont apparaître. Et par exemple, souvent, en ce moment, on parle beaucoup de burn-out, hein, un peu moins de dépression et de troubles anxieux parce que c'est un peu moins socialement accepté, mais beaucoup de gens qui se sont trouvés en épuisement professionnel l'ont été avec, au tout début, comme premières altérations, finalement, un sommeil avec des gens qui n'arrivent pas à mettre leur cerveau en pause au moment d'aller s'endormir, un sommeil qui commence à se raccourcir, à se perturber, et puis après, les autres symptômes vont apparaître.
Alors, on a parlé des somnifères, mais j'imagine qu'il existe d'autres solutions dans ces cas-là pour pouvoir mieux dormir et donc éviter ce type de troubles.
Alors, les médicaments, effectivement, ça vient toujours en deuxième position. Il y a des nouveaux médicaments aussi qui sont sortis. Il y a différents types de molécules. Il y a la mélatonine, il y a les antagonistes de l'orexine, qui ont tous les deux des niveaux de preuve élevés dans le traitement de l'insomnie, mais toujours en deuxième ligne. Vraiment, la première ligne, c'est la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie, qui est une thérapie tout à fait spécifique, qui est, on le dit, multicomposante, c'est-à-dire il y a différents blocs. On a dans l'idée que cette thérapie comportementale et cognitive, en fait, c'est de l'éducation au sommeil, c'est de l'hygiène de sommeil. Non, il y a en plus d'autres ingrédients de relaxation, de méditation, de traitement des pensées dysfonctionnelles. Le lit va devenir un champ de bataille hein, pour les patients qui souffrent d'insomnie. Donc, il va falloir travailler sur toutes ces pensées qui vont être génératrices d'anxiété, qui vont entraîner et faire se pérenniser les troubles. Et puis, les comportements, là aussi, on a plein de comportements sur lesquels il faut travailler avec des techniques qui sont validées scientifiquement. Ça peut être fait en vie réelle ou de manière numérique.
Vous parliez de mélatonine. Frédéric, via WhatsApp, nous demande que penser de la prescription de mélatonine comme complément alimentaire.
Alors, moi, d'abord, ça doit toujours être fait avec son médecin traitant, d'accord ? Ça reste un médicament, c'est pour ça qu'on prend ce genre de choses. On a dans l'idée des fois que les substances en parapharmacie ou autres sont plus naturelles, etc. La nature, si on prend des choses naturelles, c'est parce qu'elles agissent. Si on prend la mélatonine, d'ailleurs, je vous conseille de prendre que de la mélatonine. Maintenant, il y a une surenchère un peu, on trouve des compléments de mélatonine avec 10 composés, 12 composé dedans. Donc voilà, avec son médecin, la mélatonine, elle a deux effets. Elle a un effet d'entraînement des rythmes, donc vraiment de synchronisation des rythmes veille-sommeil. Et puis elle a un effet qu'on appelle soporifique, notamment en diminuant la température centrale. Et en diminuant la température centrale, ça va favoriser l'endormissement. Donc elle peut être tout à fait indiquée dans sa version à libération prolongée dans l'insomnie.
Stéphanie Mazza, une toute petite dernière courte pour la route. On est en temps de vacances pour beaucoup de gens. C'est le moment où on en profite pour faire baisser le stress et bien se reposer. On peut le résumer ainsi ?
Carrément, c'est vraiment le moment où vous allez commencer à comprendre de combien de temps de sommeil vous avez besoin, donc profitez des vacances pour mieux apprivoiser votre sommeil.
Merci beaucoup Stéphanie Mazza, je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse de neuropsychologie à l'université de Lyon 1 et vice-présidente de l'Institut du Sommeil et de la Vigilance. Nous étions également avec Pierre-Alexis Geoffroy, merci beaucoup, psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris et professeur de médecine à l'université Paris-Cité. Demain, on parlera du modèle des coopératives d'entreprise, les SCOP de leur petit nom. Dans un instant, les infos de 20h, mais avant cela, c'est l'heure de la question des petits bateaux.
Bonjour, moi je m'appelle Lucas et moi à 3 ans et demi. Moi, je voulais savoir pourquoi le ciel est bleu. Merci, au revoir.
Pourquoi le ciel est-il bleu ? La réponse sera juste après le flash.